Radio Kapi.
Les informations, Jocelyne Moussaou Pondé. Les titres de cette édition vespérale sur Radio Kapi. Denis Mukwege dénonce l'impunité des crimes graves en RDC et appelle à une justice transitionnelle 15 ans après la publication du rapport Mapping. Dans la province de Lomami, la tension reste vive à Kalambaï après une violente bagarre entre deux écoles secondaires et en fait plusieurs blessés et causé des dégâts matériels importants. Deux coupures d'électricité en deux semaines à l'aéroport international de Ndjili relance le débat sur l'accès à l'énergie en RDC. Notre invité Christian Mbenga, coordonnateur énergie au sein de Resources Matters, propose des solutions hybrides pour répondre durablement à ce défi. Bonsoir à tous. 15 ans après la publication par les Nations Unies du rapport Mapping sur les violences, les violations les plus graves des droits humains et droits internationaux humanitaires en République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, dénonce l'impunité persistante. Dans une déclaration écrite publiée ce mercredi, il fustige l'absence des volontés politiques des autorités congolaises pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Martial Papimukeba pour les détails.
Dans sa déclaration, Denis Mukwege rappelle que les rapports Mapping publiés le 1er octobre 2010 par le Haut Commissariat des droits de l'homme documentaient 617 incidents violents survenus entre 1993 et 2003 en RDC, impliquant notamment les Rwanda et l'Ouganda, et visaient à mettre fin à l'impunité. 15 ans plus tard, l'absence de mise en œuvre des recommandations est préoccupante. Aucune poursuite pénale ni réforme institutionnelle n'a été menée et des allégations de corruption affectent les fonds des réparations aux victimes, précise-t-il. Le prix Nobel avertit que cette impunité favorise la répétition des atrocités comme c'est le cas avec les M23. Il appelle la CPI à poursuivre ses enquêtes et propose la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC et des chambres mixtes pour juger les crimes imprescriptibles. Denis Mukwege invite les autorités, la société civile et les partenaires à exploiter tous les mécanismes de justice transitionnelle en fait d'assurer vérité, réparation et non-répétition. Seule une justice indépendante permettra de construire une paix durable en RDC, conclut-il. Béni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Honorez-vous, au moins 216 ménages vulnérables des villages Bouamba et Kaguri, groupement Kibati, territoire de Nirangongo, vont bénéficier du projet de résilience et relèvement économique. Le projet à l'initiative de l'ONG Solidarité pour l'émergence de la famille a été lancé officiellement ce mercredi. Selon le chef de projet au sein de cette structure, les bénéficiaires issus de la population affectée par la crise sécuritaire et humanitaire vont bénéficier de plusieurs activités durant les 3 mois de la fin de l'année 2025. Ce sont notamment des activités génératrices des revenus et encadrement dans le cadre de la sécurité alimentaire à travers l'approche de transfert d'argent. Suivons à ce propos Désiré Manioukou.
Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet qui porte sur l'appui aux moyens de subsistance à travers la relance des activités génératrices de revenus et la sécurité alimentaire, ça c'est à travers les transferts cash. Ces bénéficiaires sont tous des responsables de ménages vulnérables, ciblés sur base de certains critères, notamment être une personne de troisième âge et chef de ménage, soit être une jeune fille et chef de ménage, être entrepreneur, mais tomber en faillite suite au vol et perte de ressources. Nous avons choisi les deux villages parce que d'abord les bénéficiaires sont tous détournés. Elles sont dépourvues de moyens. Quand ils étaient en déplacement, ils avaient tous perdu leurs moyens de survie. Nous pensons que à la fin de ces mois, beaucoup de bénéficiaires auront déjà repris leurs activités. Économiquement, ils seront déjà peut-être stables et de subvenir aux besoins de leur ménage.
En Ituri, les retournés de guerre de l'axe Komanda Luna dans la chefferie de Walese-Vonkutu, territoire d'Irumu, n'ont toujours pas accès aux soins de santé. Plusieurs structures médicales ont été détruites ou incendiées par les rebelles des ADF. Les femmes enceintes et les enfants particulièrement vulnérables sont les plus exposés. Les autorités coutumières et la société civile appellent à une aide d'urgence, comme nous l'est dit ici Isaac Remoyope.
Dans la chefferie de Walese-Vonkutu, le retour progressif des déplacés s'observe dans plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 4. Mais les structures de santé y sont quasi inexistantes. Conséquence, les familles retournées doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à Komanda pour se faire soigner. Une femme témoigne.
Pour les soins, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Nous souffrons quand nous tombons malades. Il faut aller jusqu'à Komanda pour être soigné. Mais si vous n'avez pas d'argent pour vous y rendre, cela devient un danger pour la santé.
Dans les rares centres encore fonctionnels comme à Pinziride, Ofai, Bonassoura, Ido ou Ndalia, il n'y a ni médicaments, ni personnel suffisant, ni équipement. La plupart ont été pillés ou détruits par les ADF. Dieudonné Malangaï, président territorial de la société civile.
Nous recommandons à des infirmiers et leurs IT de regagner toutes ces structures parce qu'il y a absence de corps soignants à nos différents organisations de venir en appui pour ces différentes structures sanitaires. Et parce que ça devient un problème. Les Yao fait les déplacements, ça fait 5 ans.
La chefferie de Walese-Vonkutu compte des centaines de villages, mais la majorité reste sans aucune structure sanitaire. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La tension reste vive ce mercredi dans la chefferie de Kalambayi, territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami, à la suite d'un conflit entre deux écoles secondaires, Institut Mpuilai et Kaya. Ce conflit impliquant élèves et professeurs a dégénéré hier mardi en bagarre rangée, selon des sources locales. Plusieurs élèves sont grièvement blessés et deux salles de classe détruites dans ces écoles construites au centre de la mission Katomba, à près de 25 km du chef-lieu du territoire. Esther Dalafina nous en parle.
Les témoins affirment que tout a commencé à la rentrée de cette année scolaire. Plusieurs élèves de l'Institut Mpuilai ont quitté volontairement leur école et fréquentent actuellement l'Institut Kaya où un nouveau préfet a été affecté par la sous-division de l'EPST. Ceci a créé une diminution sensible d'élèves à l'Institut Mpuilai. La même source précise que le préfet des études de l'Institut Mpuilai n'a pas digéré le départ de ses anciens élèves. C'est ainsi que ce mardi, le préfet accompagné de quelques élèves sont allés jeter des projets vers 12h à l'Institut Kaya, s'en est suivi des bagarres. L'administrateur du territoire de Ngandajika parle d'un groupe de professeurs de l'Institut Mpuilai qui manifeste contre l'affectation d'un nouveau préfet à l'Institut Kaya. L'autorité locale avance un bilan provisoire de 2 blessés graves, d'un élève fracturé et de 2 salles de classe détruites à l'Institut Kaya. La tension est vive ce mercredi matin dans cette localité à cause de cet élève fracturé. Aucune présence policière jusqu'alors, déplorent certains habitants de cette localité qui craignent le pire. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kinshasa, noté l'état de santé stable ce mercredi d'une quinzaine d'élèves de l'école Sabrina du quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Elles se sont senties mal hier après qu'une camarade de classe a ouvert un flacon de gaz qu'elle avait emmené dans la salle. Évacuées d'urgence dans des centres hospitaliers de cette commune, elles ont été placées sous oxygène. Certaines ont pu regagner leur domicile hier même, affirme le bourgmestre Séverin Loumou. Il est joint par Babel Pongo Massimango.
À l'école complète scolaire Sabrina à Kindele, un élève est arrivé avec un gaz qu'il a pu ouvrir, gazer ses condisciples. Là, ça va étouffer les enfants. Oui, nous sommes arrivés sur place. On a appelé les cliniques universitaires qui nous ont envoyé l'ambulance et nous avons pu transférer ces enfants aux cliniques universitaires. Moi-même, j'ai assuré la supervision. 8 aux cliniques et puis 3 à mon collègue. 4 sont restés dans les centres qui est à côté de l'école. Et les 3 autres, vers 23h, qui sont allés à mon collègue. J'étais avec elle, on a examiné, c'était bien, on les a libérés avec leurs parents. Il y a encore quelques élèves qui sont aux cliniques, ils sont suivis. Il n'y a pas de cas de mort, il n'y a pas eu de grenade. La situation est au contrôle. En tout cas, la vie des enfants n'est pas en danger.
C'est quel type de gaz?
Attendons, les enquêtes vont déterminer tout ça.
Retournons dans l'est du pays. Les inspecteurs du travail du Nord Kivu se trouvent dans une situation critique à Kisangani. Ils séjournent dans cette ville depuis plus d'un mois à la recherche de leur salaire non versé depuis 3 mois, soit juillet, août et septembre 2025. Selon eux, toutes les promesses leur fournies par la banque BOA s'avèrent infructueuses. Entre-temps, ils broient du noir à Kisangani. C'est un reportage de Jacques Mukonkole.
Ils sont plus de 150 les inspecteurs du travail du Nord Kivu en attente de leur salaire de base. Ils ont été délocalisés des Kiti BCDC où ils percevaient régulièrement leur salaire au profit de la banque BOA. L'agence de Kisangani étant la plus proche du Nord Kivu, ils y ont été recommandés pour ouvrir leur compte afin de recevoir leur salaire. Pour atteindre Kisangani, ils disent avoir emprunté la voie routière pendant plusieurs jours, bravant différentes difficultés et tracasseries militaires. Curieusement, bien qu'ayant rempli toutes les formalités administratives, ils n'ont reçu ni les numéros des comptes, ni encore moins leur salaire. C'est pourquoi ils interpellent différentes autorités, dont le vice-premier ministre de la fonction publique, le ministre de l'Emploi et du Travail, l'inspecteur général du Travail ainsi que le directeur administratif et financier de l'IGT, afin de résoudre leurs problèmes. Steve Bigirimana est leur porte-parole.
Pour qu'ils puissent intervenir pour notre cause, l'équipe qui se trouve à Kisangani vit difficilement et cela nous prend beaucoup, beaucoup de moyens. Et nous attendons percevoir nos salaires afin que nous puissions retourner vers nos milieux d'affectation, c'est-à-dire à Beni. À Kisangani, continuons à faire des tours à l'agence de la BOA qui ne nous donne aucune suite favorable.
Pour le moment, le gérant de l'agence BOA n'est pas disponible pour répondre à ses préoccupations. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Lutte contre les embouteillages à Kinshasa marquée par le déploiement des militaires aux côtés des policiers pour désengorger les routes. Les avis sont divergents quant à l'efficacité de cette mesure sur le terrain. Mais pour la nouvelle société civile congolaise, ce dispositif, entré en vigueur depuis lundi, permet jusqu'ici de fluidifier la circulation sur plusieurs artères de la capitale. Cependant, Jonas Tchumbilla, son coordonnateur, plaide pour l'implication des acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme pour faire le monitoring des éventuelles bavures afin que le droit des usagers soit respecté. De son côté, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchid Yav, instruit les inspecteurs déployés sur le terrain pour évaluer cette opération à faire preuve de professionnalisme. Grassam Zati nous en parle.
Après avoir constaté, selon lui, une amélioration de la circulation, notamment dans le district de Tchangou, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise appelle à l'intensification des messages de sensibilisation de la population sur ces dispositifs. Jonas Tchombela.
Nous avons fait le tour de la ville. Personnellement, j'ai été affecté à l'est de Kinshasa. Pour une fois, je suis allé jusqu'à sceller très facilement. On devrait associer les moniteurs de la société civile pour éviter les bavures. Parce que déjà, dès la première journée, il y a une brutalité que nous avons observée suite à l'indiscipline, bien sûr, des chauffeurs au niveau de l'entrée de Petro-Congo.
Au cours d'un briefing ce mardi, l'inspecteur général de la police, Philemon Patience Mouchid Yav, demande aux inspecteurs de prévenir les abus et violations des droits de l'homme sur le terrain.
Je demande également aux usagers de la route de se conformer aux règles et aux codes de la route. Les chauffeurs de véhicules privés, les chauffeurs de taxis, les motocyclistes, les 14e région militaire, le commissariat provincial ville de Kinshasa. Nous de l'inspection générale, nous pouvons crier ensemble à bas l'incivisme routier dans la ville de Kinshasa.
D'autres acteurs de la société civile affirment que cette fluidité de la circulation observée dans certains coins de la capitale est éphémère et appelle à des solutions durables.
Fuir le loyer élevé, la promiscuité et l'instabilité des quartiers urbains bondés, c'est le choix qu'ont fait de nombreuses familles quinoises. Même si cela signifie s'installer loin du centre-ville, dans des zones moins denses et parfois peu aménagées, elles préfèrent vivre dans leur propre parcelle, à l'abri du stress de la location. Malgré quelques défis comme le manque d'eau potable, d'électricité ou encore l'éloignement des services de base, ces familles revendiquent un mieux-être et une certaine autonomie dans leur quotidien. Gloriane Lepeya et Nenel Bamani sont allées à leur rencontre et nous racontent dans ce reportage.
Ces choix, Madame Sylvie et sa famille l'ont fait il y a 3 mois en quittant leur quartier d'Enjili pour Terre Jaune sur la route Sekoma Fakimbanteke avec pour voisin direct des jardins. En dehors de son logement, elle dispose de maisons commerciales, une porcherie, un beau potager dont elle revend le produit, un forage, du calme et de la nature. Mais le choix de quitter n'a pas été facile.
Au début, j'étais réticente, mais en voyant le coût de la vie, le loyer et la scolarité des enfants, nous avons préféré aménager chez nous.
Comme elle, d'autres ont sauté les pas. Hervé Otoko est parti de Brikinangaliema pour le quartier Kimbondo, près de Maman Koko à Mongafula. Ses familles témoignent de leur nouvelle réalité, loin de la pression urbaine, mais proche de la tranquillité.
C'était une expérience un peu difficile tout au début, mais avec le temps, on a pu se conformer en fait avec les réalités que nous avons trouvées sur place. Mais de vraies motivations, parce que là où on était quand même locataires. Là où nous sommes aujourd'hui, bon, c'est chez nous.
Toutefois, les manques d'eau potable et d'électricité restent des défis majeurs.
Ce qui nous dérange, c'est le manque d'eau et d'électricité. Nous recourons aux panneaux et au fourrage. En tout cas, nous sommes vraiment à l'aise ici avec les enfants.
Ajoutez à cela les embouteillages pour ceux dont le lieu de travail ou d'études sont situés plus loin.
Actualité internationale.
Au Maroc, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lors des marches de la génération Z. C'est un mouvement de protestation inédit, sans doute le plus important de ces dernières années au Maroc. Pour la 4e fois consécutive, hier mardi, des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de plusieurs villes du Royaume à l'appel du collectif Gen Z 212 à Rabat, Casablanca, Fès ou Tanger. Les slogans étaient les mêmes. Réformer l'éducation et améliorer les services de santé publique.
L'invité.
Deux coupures d'électricité en l'espace de 2 semaines à l'aéroport international de Njili relancent le débat sur l'accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Invité de Radio Capi, le coordonnateur énergie au sein de l'organisation Resources Matters, Christian Mbenga, estime à 20% le taux d'accès à l'électricité dans le pays. Toutefois, il considère qu'il est possible d'inverser cette tendance et de répondre de manière durable et efficace à ce défi, notamment en mettant en place des systèmes hybrides moins polluants, combinant énergie solaire, batterie de stockage et générateur d'appoint. Christian Mbenga s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Christian Mbenga.
Bonjour.
En l'espace de 2 semaines, l'aéroport international d'Njili a été le théâtre des coupures du courant, relançant ainsi les débats sur l'accès à l'électricité à travers les pays. Quel jugement portez-vous sur cette question?
Je pense que ce qui se passe à l'aéroport d'Njili, ce n'est qu'une partie de l'iceberg sur le vrai problème que nous avons de l'accès à l'électricité en RDC. Cela s'est passé dans l'espace de 2 semaines où nous avons d'abord vu la nuit du 10 au 11, le président de la République a fait plus de 40 minutes dans l'espace aérien en attendant qu'il y ait reprise du courant électrique pour atterrir. Et pas plus tard que le 22, il y a eu encore coupure à 5h50 de l'aéroport international d'Njili. Vous pouvez comprendre.
Quelles sont les conséquences de tels incidents, surtout pour les voyageurs qui prennent le vol des correspondances à partir de l'aéroport d'Njili?
Les conséquences sont grandioses parce que vous devez savoir que les gens qui voyagent, ils ont des agendas. Ils ne voyagent pas seulement pour aller se promener, mais ils ont des rendez-vous d'affaires, parfois des réunions de travail. Et le fait qu'il y a coupure d'électricité à l'aéroport, cela fait qu'il y a perturbation du programme de vol. Et quand il y a perturbation, supposons que le courant avait fait 1 heure ou 2 heures, cela fait que l'avion qui était supposé quitter l'RDC à 7h ou à 8h ne va plus quitter à 7h ou à 8h, va quitter à 9h ou 10h. Et cela impacte directement parce que normalement, il y a des vols de connexion. Quelqu'un qui va à Dubaï, il prend une éthiopienne, il va passer d'abord à 10 pour prendre le vol de connexion. Donc, du fait qu'il va quitter en retard à Kinshasa, cela veut dire qu'il va rater son prochain vol de connexion. Et pas de miracle, quand vous arrivez à 10, vous devez peut-être soit passer toute une journée, peut-être même dormir pour partir le lendemain. Quid des affaires que la personne voulait aller faire? Quid de la réunion ou de peut-être d'aller rencontrer des potentiels bailleurs, de potentiels investisseurs? Vous voyez combien cela a de l'impact négatif sur le pays ou sur la population congolaise qui veulent bien évidemment se développer et des activités socio-économiques dans le pays.
Qu'est-ce que vous proposerez comme solution à ces incidents devenus chroniques, non seulement dans les installations aéroportuaires, mais également dans les hôpitaux, universités, lycées, prisons et d'autres infrastructures vitales.
Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que nous, la solution que nous proposons, il y a de cela depuis le début de cette année, Ressourcement Thèse, l'ESG, que je coordonne les activités dans le volet énergie, nous avons lancé un projet sur l'autonomisation des bâtiments publics. Nous avions déjà compris l'importance. De plus en plus, si vous constatez dans la ville de Kinshasa, il y a un problème de boom immobilier. Donc il y a des bâtiments, il y a des immeubles qui naissent de partout, alors que l'offre reste identique. Donc la demande croise. Alors face à cette situation, la solution c'est celle-là de pouvoir rendre autonome certains bâtiments publics.
Sur le plan énergétique.
Sur le plan énergétique, évidemment. Donc il faudra mettre en place des solutions hybrides qui combinent les mini-réseaux solaires, des groupes des mini-réseaux solaires accompagnés des batteries de stockage et en dernière position, les groupes d'électrogène. Ça doit vraiment être dans des cas où il y a de l'énergie venant des mini-réseaux solaires, il n'y a pas d'énergie dans les batteries de stockage, c'est alors que vous pouvez utiliser les groupes d'électrogène. Parce qu'en réalité, et sur le plan économique et sur le plan écologique, cela a un impact, l'utilisation des groupes électrogènes.
Alors, si on vous demandait d'adresser un message aux autorités gouvernementales ainsi qu'aux institutions spécialisées du secteur de l'électricité, que diriez-vous?
Nous, en Ressourcement Thèse, nous insistons beaucoup et nous appelons le gouvernement congolais, nous appelons les investisseurs et tous les autres acteurs qui travaillent dans le secteur de l'énergie de pouvoir regarder cette question de l'autonomisation des bâtiments publics en électricité. Parce que, plus en plus là où nous allons, il y aura toujours une demande qui va augmenter dans la ville. Et si nous n'envisageons pas des solutions durables, écologiques et économiques, nous n'allons pas nous en sortir. Ce n'est pas aujourd'hui où nous devons commencer à réfléchir sur que devons-nous faire pour trouver des solutions à l'aéroport de Kinshasa. Heureusement pour nous, la RDC, nous sommes dotés de potentiels énergétiques énormes. Mais Ressourcement Thèse a mis en place une plateforme que nous appelons Congo Epela. Et cette plateforme montre les différents potentiels énergétiques de la RDC. Dans tous les coins du pays, vous avez, dans tous les endroits, vous pouvez trouver quel est le meilleur potentiel qu'on peut utiliser pour électrifier ce village. Est-ce que c'est le solaire? Est-ce que c'est l'hydro? Est-ce que c'est l'éolien? Et donc, c'est déjà un avantage que nous avons ces potentiels et nous devons le mettre réellement à profit pour le pays.
Monsieur Christian Benga, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi, monsieur le journaliste.
Merci, Blaise Ndongala Mayanda. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce journal qui prend fin et qui a été coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Poli Mouzelia. Billy Landry Betou était à la mise en onde. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.